Notre Dieu et Père, nous te remercions parce que, Seigneur, non seulement tu nous as donné ton esprit à la Pentecôte pour que ce consolateur puisse être avec chacun de nous, mais Seigneur, ce même esprit nous fait comprendre les Écritures qui sont, Seigneur, inspirées par toi, qui nous sont laissées pour connaître, Seigneur, ton plan, ton dessein vis-à-vis de nous. Et nous te prions que ce matin, cette parole puisse toucher nos cœurs et nous aider à avancer, à grandir. Seigneur, avec toi, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est marqué sur le paperboard? Comment ça se dit en français, paperboard? Tableau de papier? Non. Bon. Parce que, donc je parle anglais. Voilà, paperboard. Qu'est-ce qui est marqué? Qu'est-ce qui est marqué? J'ai pas entendu. Est-ce qu'il y en a qui sont obéissants ici? Levez la main. Oh! Oh, c'est partagé là. Non, parce que si vous êtes tous obéissants, je n'ai pas besoin de prêcher. Oui, c'est ça, mais toi tu es levé, donc tu es obéissant. Voilà, c'est bien, c'est bien. On essaye, on essaye. L'obéissance, c'est le thème pastoral de cette année, hein, puisque chaque année, le Seigneur nous aide nous donne un thème particulier qu'on essaie de creuser un peu plus pour que nous puissions comprendre un peu mieux quel est le plan pour nous. L'obéissance, bâtir le royaume de Dieu avec l'obéissance. Je voudrais sortir un peu des sentiers battus par rapport à l'obéissance, parce qu'il y a des choses que vous savez. Donc vous dire des choses que vous ne savez peut-être pas ou qui sont un rappel important. Ce que je veux dire par là, c'est que l'obéissance, vous savez tous qu'il faut obéir. Bon. Et ce n'est pas la peine que ce matin, je prenne tous les versets, pourquoi vous devez obéir, etc. Mais je vous parle en tant qu'adulte, hein, même les jeunes, vous êtes des adultes pour la plupart, parce que les autres sont à l'école du dimanche, presque. Et donc l'obéissance d'un adulte est différente de l'obéissance d'un enfant. L'enfant, il obéit pourquoi, quelle est la raison de son obéissance? C'est un peu par intérêt, hein? Pourquoi? Parce que tout seul il ne peut pas rentrer dans la vie à 3 ans, 4 ans, que vous voulez qu'un enfant fasse, même à 8 ans, etc. Bon. La vie est un peu compliquée, les adultes ont un peu compliqué les choses, hein. Regardez Élodie, je crois savoir qu'elle a même pleuré, hein. Vis-à-vis de l'administration française, c'est extrêmement déprimant, hein, dépressif. Hein, à un moment donné, elle était au téléphone toute la journée, hein, pour essayer d'avoir la Sorbonne, rien à faire. Vous voyez, le monde adulte n'est pas facile et c'est parfois très déprimant. Bon, en français, administration, ailleurs, c'est autre chose, mais quelles que soient les choses, un enfant est dépendant de ses parents, donc son obéissance est d'intérêt, hein, l'intérêt d'obéir. Alors il le fait plus ou moins volontairement, mais il le fait quand même par intérêt. Et c'est pas tout à fait cette obéissance que Dieu nous demande, hein. C'est un intérêt pour sa survie. Mais arrivé à l'âge adulte, où commence l'indépendance par rapport aux parents, eh bien, il y a une autre obéissance qui doit se mettre en place. D'une part, une indépendance responsable, mais l'obéissance devient conditionnelle. Elle est plus absolue, elle est conditionnelle. C'est-à-dire on prend les conseils des parents en conditionnel parce qu'on adapte, parce que peut-être leur vie il y a 30 ans nécessitait telle adaptation, aujourd'hui une nouvelle adaptation. Donc on prend les conseils mais on les adapte, hein. on les applique pas comme ça bêtement sous prétexte que les parents le disent. Donc ça c'est une attitude responsable et une obéissance qui est conditionnelle et qui passe par le filtre aussi du contexte dans lequel nous sommes. Hein. Élodie nous en parlera un peu plus dans cette soirée, je pense qu'on aura des échanges plus facilement que dans un culte, mais il y a des choses qu'on adapte à Singapour qui ne sont pas les mêmes qu'en France, et c'est normal. Et ça, c'est naturel que nous le fassions. Donc l'adulte développe sa propre maturité et devient autonome à son tour en adaptant les choses. Et par rapport aux hommes, il est obéissant de manière relative. Avec Dieu, c'est différent. Même étant adultes, nous sommes enfants par rapport à Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Il y en a qui se sentent enfants, par rapport à Dieu, hein, donc dépendant, même adulte. Que voulez-vous qu'on fasse? C'est même la simple logique qui parle, alors que nous sommes un grain de poussière dans l'univers, hein, c'est un chant qui dit ça. Nous sommes dépendants de Dieu par rapport à tout ce qui nous entoure, aux forces, aux toutes choses, etc. Et le simple bon sens nous permet de savoir que nous avons besoin de Dieu. Donc l'attitude par rapport à Dieu d'obéissance est une attitude d'un enfant, déjà bien sûr un peu comme un enfant par intérêt, mais il faut que cette obéissance devienne mature pour que de l'intérêt d'obéir à Dieu, parce que c'est la raison logique de le faire, elle devienne une obéissance volontaire. C'est-à-dire une obéissance qui se soumet volontairement à Dieu. Et donc là, on passe d'une obéissance religieuse, hein, qui est un intérêt, j'ai intérêt, il y a en place des superstitions, hein, si je n'obéis pas, Dieu va me frapper, etc. Et c'est de là que vient toute cette image d'un Dieu un peu fouettard, hein, et les gens qui ne sont pas convertis, c'est-à-dire où leur cœur n'est pas attaché au Seigneur, ils voient bien sûr beaucoup dans l'Ancien Testament ce Dieu fouettard, etc., parce qu'ils ne comprennent pas forcément les choses en profondeur. Donc ils jugent les choses et ils ne s'approchent pas de Dieu. Mais nous, nous connaissons Dieu qui est bon, compatissant, miséricordieux, etc. Mais il y a une autre réalité spirituelle qui est derrière les choses. Dieu est parfait et ses ordres sont parfaits. Ses conseils sont parfaits. Et donc l'obéissance par rapport à Dieu est considérée comme être totale envers lui. Parce qu'il sait ce qu'il ordonne. Mais de notre côté, ça doit être une obéissance volontaire, de tout cœur que nous obéissons. Et alors là, c'est pas facile de passer de l'un à l'autre, parce qu'on a trop tendance à retomber dans le sillon du religieux, de le faire pour obtenir la faveur de Dieu, ou de pas tomber dans sa défaveur, etc. Et c'est ce qu'on appelle la superstition, et c'est un peu dans tous les pays, on est dans cette superstition, et se manifeste différemment suivant les pays, mais il y a cette superstition par rapport à Dieu qui réagit. Donc le principe d'obéissance est avant tout spirituel. C'est là où je voudrais vous amener ce matin. Tout d'abord, l'obéissance est un principe spirituel avant d'être un principe naturel. Parce que le spirituel est total, le spirituel couvre toute chose. Alors que le physique, justement, comme on l'a dit, il tient compte des imperfections, du péché, de la chute, etc. Donc, c'est avant tout le spirituel qui commande au niveau de l'obéissance. Il faut comprendre le spirituel. Et aussi, comprendre les conséquences de la désobéissance qui, elles aussi, sont spirituelles. Avant tout, premièrement. Premier, ça veut dire ce qui est au début, hein, de quelque chose. Donc, il faut bien comprendre les deux ordres qui gouverne l'obéissance, le céleste, le spirituel, et le terrestre. Vous le voyez d'ailleurs dans l'attitude des apôtres, des premiers chrétiens, des apôtres, des disciples de Jésus, qui, à un moment donné, quand ils sont confrontés aux hommes, dont ils doivent le respect, puisque Dieu nous le demande, le respect aux autorités, à un moment donné, quand les autorités outrepassent leurs droits par rapport l'enseignement de l'Écriture, ils disent « Faut-il obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ?» Ils posent la question et eux, ils répondent « Non, d'abord à Dieu. » Donc il y a une priorité qui est d'abord le spirituel. Si vous prenez dans Genèse l'origine de la création de l'homme et de la femme, dans Genèse c'est très clair, c'est spirituel. Dans Genèse 2, quand Dieu a créé l'homme, il dit « L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, donc cet ordre, donc cette attente d'une obéissance à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. » Voyez-vous, l'arbre, c'était pas un arbre avec une pomme normale, hein, c'était un arbre symbolique. Hein. D'abord, c'est pas une pomme, hein, c'est pas marqué une pomme, hein, c'est un fruit. Hein. C'est la légende, enfin, et puis beaucoup de choses que les hommes ont fait pour transformer ça en pomme. Le fruit spirituel de l'arbre de vie, c'est qui l'arbre de vie, tout d'abord ? Dans la Bible, parce que la révélation vient dans toute la Bible. Hein. Là, on en est au début. Mais après, on découvre qui est l'arbre de vie. C'est Jésus. Jésus, l'arbre de vie. Okay ? On le trouve dans Apocalypse. Hein, et vous verrez que dans Apocalypse, parce que Genèse, c'est le premier livre. Apocalypse, c'est le dernier. Donc vous faites le tour de la Bible. Et à la fin, vous voyez qu'il n'y a plus qu'un seul arbre. Alléluia. Nous ne serons plus tentés par l'arbre, la connaissance. Donc l'arbre de vie, c'est Jésus. C'est pour ça qu'en tant que chrétiens, nous honorons Jésus. Parce que Jésus est l'arbre de vie. Et tous les fruits que nous avons en Jésus sont des fruits qui sont excellents. Des fruits qui nous font du bien. Des fruits qui nous rassasient spirituellement. L'arbre de la connaissance, c'est quel fruit ? Il vient d'où ce fruit ? C'est la sagesse du monde. Hein ? Bon. Donc vous avez cette opposition entre le céleste et le monde. Donc vous voyez, on va vers le monde où les choses sont relatives. Il y a une certaine obéissance parce que Dieu quand même gouverne le monde aussi, hein, même si Satan est le prince de ce monde, Dieu est au-dessus. Hein. Et il permet que les gouvernants, etc., assurent la paix. Alors bien sûr, ils ne sont pas tenus à adorer Dieu, mais Dieu met en place pour que nous puissions quand même vivre dans la paix. Mais c'est conditionnel. Cette obéissance est conditionnelle. Donc l'ordre humain, sous forme de lois, décrets, etc., est souvent gouverné par des idéologies, des théories, etc. L'ordre de Dieu tient de son caractère. Le caractère de Dieu est un caractère d'absolu. Nous avons un absolu en Dieu. Nous savons que Dieu, il est tout. Il est omniscient, donc il connaît tout. Omnipotent, tout puissant, nous le chantons. Dans toutes nos louanges, nous célébrons ce qui est Dieu. Et nous pouvons lui faire une confiance totale, absolue. Okay. Et c'est ce message qui dérange les païens. Parce que eux, ils n'ont pas du tout cette possibilité. Ils ont tout un tas d'idoles, chacun a son idole d'ailleurs. Donc chacun. Et donc, on relativise l'absolu. Ce qui est vrai pour Claire, eh bien, c'est pas vrai pour moi. Parce que moi, je pense autrement, etc. Donc, on est dans des connaissances partielles. Et donc, quelqu'un, si Claire me dit à sa copine ou à son chef, etc., alors moi, je crois en Dieu parce que Dieu est absolu, il est puissant, etc., il va être rejeté. Directement comme ça. Hein. Et c'est ce qui se passe. Le monde ne reçoit pas. Il veut relativiser les choses parce qu'il ne croit pas dans ce Dieu absolu. Mais nous y croyons. Amen. Il y en a qui croient ici qu'on peut faire confiance à Dieu totalement. Parce qu'il est bon, parce que nous le connaissons, nous l'avons goûté à sa présence. Et Dieu connaît les conséquences de la désobéissance qui sont des conséquences spirituelles d'abord. Pourquoi je dis spirituel d'abord ? Élodie, tu as une idée ? Retournons dans Genèse. Dans Genèse, il est dit, l'Éternel donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger, etc., mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. De quelle mort Dieu parle-t-il ? De quelle mort parle-t-il ? Il parle des deux morts. Okay. Simplement, c'est chronologique. Il parle des morts spirituelles et de la mort physique. En fait, c'est les deux morts. Hein. Mais la première, c'est pour ça que je dis c'est d'abord spirituel, la première, c'est d'abord spirituel. Et ensuite, la conséquence, c'est physique après. Et oui, c'est toujours dans cet ordre-là. Et là, d'ailleurs, l'apôtre Paul va le rappeler. Il va dire d'abord le spirituel, ensuite le charnel. D'abord, dès que Ève a décidé d'en manger et a donné à son mari qui a accepté. Donc les deux sont responsables. Il n'y a pas qu'Ève. Ils sont morts spirituellement. Immédiatement. Immédiatement. Mais Satan, qui est le prince du mensonge, qui est bien plus intelligent que nous et qui est pervers dans le mensonge, il a développé des ruses dont nous ne sommes pas capables par nous-mêmes de déceler. Il faut le savoir, ça. Et il ne faut jamais sous-estimer la puissance de Satan. Il ne faut jamais la sous-estimer. C'est une grave erreur que les chrétiens y font. Satan est rusé. Jésus l'a dit. Il est rusé. Et il savait qu'effectivement, que ça se passait dans cet ordre-là. Spirituel, physique. Donc du coup, il a joué sur cette ambiguïté. Il a dit, tu ne mourras pas. Effectivement, Eve en a mangé, elle n'est pas morte. Elle a pu dire à son mari, tu vois, je ne suis pas mort, tu ne peux pas en prendre. Vous voyez, c'est l'entraînement de la séduction. Le problème, c'est que la mort physique suivra plus tard. Hein, okay, parce que le péché est entré dans le monde et il fait son travail. D'abord spirituel. Ils se sont cachés devant Dieu. Ils ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu. Ils sont pas morts physiquement, mais par contre, ils ne pouvaient plus supporter la présence de Dieu. Et ça, c'est une des conséquences de l'occultisme, entre autres, hein, qui est utilisé dans le mensonge. C'est que ceux qui sont dans l'occultisme, au début, bien sûr, c'est pas trop méchant, mais petit à petit, ils ne peuvent plus supporter la présence de Dieu. Et Maurice Ray, qui a écrit ce livre, c'est un docteur, sur l'occultisme, il dit que les gens qui sont dans l'occultisme, qui pratiquent l'occultisme, ils ne peuvent pas supporter la présence de Jésus. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ça les rend nerveux, ça les rend... Ils sont complètement dérangés par la présence de Jésus. Et parce que c'est spirituel, d'abord. L'ordre reçu de Dieu ne peut pas être analysé par notre petite cervelle. Okay, c'est pour ça que nous devons obéir à Dieu tel que Dieu nous l'ordonne, tout simplement, par la foi. Si nous savons qu'il vient de Dieu, obéissons par la foi et nous serons bénis. Parce que si nous voulons essayer de comprendre pourquoi Dieu dit ça, etc., nous sommes déjà partis sur une pente savonneuse, parce que l'ennemi va utiliser ce désir que nous avons de comprendre pourquoi Dieu nous dit ça, et il va l'exploiter, et hop, on est parti dans une spirale infernale, et on se retrouve parfois à l'envers de ce qu'on veut faire. Et les ordres de Dieu sont plus, enfin, tiennent compte de choses que nous ne connaissons pas. Et en particulier, dans un autre monde, qui est le monde terrestre, qui est le monde des anges, qui est le monde spirituel. Et nous qui sommes chrétiens, nous croyons à ce monde spirituel. Vous croyez à ce monde spirituel ? Dieu le connaît. Dieu sait ce qui s'y passe. Il nous interdit d'y aller pour se voir, parce que c'est trop dangereux pour nous. Mais il existe. Et il fait partie de notre réalité. Notre réalité. Même si nous ne le voyons pas, s'il est invisible, il y en a qui ont vu Dieu ici. Vous croyez en Dieu ? Donc vous croyez à l'invisible ? Ben, il n'y a pas que Dieu. Il y a d'autres esprits. Des esprits méchants, des esprits bons et des esprits méchants. Les esprits bons sont au service de Dieu et ils peuvent nous venir en aide. Il est demandé de ne pas les contacter, mais ils peuvent venir en aide. Il y a beaucoup de gens qui ont eu la visite d'anges ou d'aide d'anges. Rappelez-vous, je ne sais pas s'il a raconté ça, Dan Snead, son expérience dans son ministère, où un ange est venu au moment où il allait arrêter son église. Bon. Vous voyez, Dieu utilise toute sa création pour être à notre service, enfin pour, oui, pour les anges sont à notre service, mais il y a aussi les anges mauvais. Et ça, l'occultisme l'utilise à ses propres fins. Mais Dieu sait tout ça, et s'il nous donne un ordre, c'est parce qu'il sait pourquoi. S'il a dit à Adam, tu ne mangeras pas parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras, il savait ce qu'il disait. Or, Adam et Ève se pensaient plus intelligents que Dieu. Parce que cette séduction du serpent les a tellement pris qu'au jeu, ils disaient, oui, mais oh, c'est peut-être pas grave, on va un peu goûter, puis sinon on fait marche arrière. Vous voyez, c'est souvent ça qu'on fait. Hein. On cherche à percer le secret, et puis ça ne vous rappelle pas des films hein, actuellement, qui sont tous basés là-dessus. On cherche à percer un petit secret, pas méchant, mais hop, on met une loi dans l'engrenage, mais on ne peut plus revenir en arrière. C'est ça le problème. On ne peut plus. Parce qu'une fois qu'on perce un secret occulte, nous sommes immédiatement dans une prise avec le démon, avec les démons, avec les anges déchus, et eux, ils tirent les ficelles. Okay, j'aime bien John Wimmer, on était beaucoup au bénéfice de son enseignement, et puis John McClure aussi, qui était son associé. Et un jour, il est venu en France, il a fait un enseignement, là, il était très très troublé, John McClure, parce que les pasteurs, ils voyaient bien, on avait des sessions, je crois, sur 2 jours, ils voyaient que les pasteurs étaient français, étaient incrédules dans ce qu'ils disaient. Ils vivaient des choses tellement fortes et tout ça. Et là, il l'a vu, il l'a vu. On sent l'incrédulité hein, dans un auditoire. Hein. Et donc, ça l'a troublé. Il est parti dans son hôtel cet après-midi, à 3h de l'après-midi. Il s'est enfermé. Il a préparé un message. Alors, je peux vous dire, c'était du feu le soir. Du feu le soir. Et il nous a parlé de cet homme qu'il a rencontré. Enfin, il a parlé beaucoup de choses, hein, mais il a parlé de cet homme qu'il a rencontré à Los Angeles, parce que son église était à Los Angeles, d'une ville tentaculaire. Hein, c'est plus grand que Singapour. Je ne sais pas combien de millions il y a à Los Angeles. Et il a dit un jour, il a reçu l'appel d'une femme qui était dans son église. C'était la femme de quelqu'un qui était un gouverneur, un peu comme le maire. Hein, enfin, chez eux, c'est un peu différent des États-Unis, mais il y a le maire de la ville. Et puis il a des associés, des directeurs à côté de lui. Quoi. Et donc, c'était la femme d'un de ses directeurs de Los Angeles. Ville tentaculaire, etc. Elle dit, viens. Je suis en danger de mort avec mes enfants. Il y a mon mari qui veut me tuer. Ah bon ? Ouais, il s'est transformé en araignée. Et donc, il a pris ses associés, ils ont bondi dans leur voiture, à fond la caisse pour aller là-bas. Ils étaient en danger de mort. Ils sont arrivés dans la maison. C'était une villa énorme. Hein. C'est, vous savez, comme à Hollywood, vous rentrez dans un truc, etc., des villas de luxe. Ils arrivent, ils ouvrent la porte. Effectivement, il y avait une araignée au bout. C'était l'homme qui était transformé en araignée. Et il bondissait sur sa femme avec un couteau. Il voulait les massacrer. Et à chaque fois, quand il prononçait le nom de Jésus, il était arrêté. Ils ont pris la femme et les enfants, ils les ont mis en sécurité, ils les ont emmenés. Et pendant toute la nuit, ils ont bagarré avec cette araignée. Cet homme, eh bien, il était complètement démonisé. C'était un homme au plus haut sommet de Los Angeles, hein. Homme riche et tout ça, avec complet veston. Il était en complet veston, hein. Il était transformé en araignée. Et simplement parce qu'il était démonisé, parce qu'il faisait de la sodomie pour avoir le pouvoir, pour avoir l'argent, etc. Il faisait des choses atroces dans cette mairie, tout simplement pour avoir le pouvoir. Parce que Satan donne le pouvoir, mais à ses conditions. Il faut faire des sacrifices d'animaux, il faut faire de la sodomie, il faut faire tout un tas de choses horribles. Et ils ont réussi à le délivrer. Et c'est ça qu'il nous a raconté pour nous montrer que la réalité spirituelle existe. Parce que les Français, pasteur, ouais, tout est rationnel, tout est beau. Hein. Paris, la ville lumière, c'est superbe, c'est formidable. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Si nous ne voyons pas derrière le décor, hein, nous sommes perdus. Parce que Satan fonctionne comme dans le théâtre. Il y en a qui ont vu, qui étaient dans des théâtres, vous avez des grands théâtres, des opéras, des choses comme ça. Vous vous rappelez quand il y a tout un mécanisme sur le théâtre ? Ou quand vous fermez le rideau, vous changez de décor, et puis vous vous retrouvez au printemps, vous étiez en hiver, au printemps, enfin, c'est magique, quoi, c'est formidable. Ben, c'est comme ça que Satan fonctionne avec nous. Il est capable de nous placer dans un décor, on y croit, réellement, et l'instant d'après, il change le décor. Oh, merveilleux. Ah, merveilleux, oui. Mais il y en a quelqu'un derrière qui tire les ficelles et qui change le décor. Et ça, nous ne sommes pas capables de le voir, sauf si on est obéissant à l'ordre de Dieu. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Pourquoi faut-il chercher à enfreindre cet ordre, si ce n'est qu'on on n'a pas confiance dans cette parole, dans ce Dieu ? Et l'ennemi joue sur notre désir d'ouvrir des secrets. On appelle la boîte de Pandore. Vous voyez. Et aujourd'hui, toute la société est construite là-dessus pour nous dire, mais oui, mais tu peux y aller un petit peu. Et j'ai des témoignages dans les écoles, hein, donc les enfants, vous êtes déjà plus âgés maintenant, mais déjà à l'âge de... Parce que Michel est dans une école catholique, pardon. Même dans cette école catholique, les enfants, ils s'amusent à jouer. Tourner les tables, à jouer aux petits jeux de table Ouija, etc. Enfin, et tout ça, c'est le début de cet apprentissage de secret. Il y a des choses qui se passent, on voudrait bien savoir, vous voyez. Et c'est comme ça que les choses se passent au départ, et on met la main dans un engrenage qui ne s'arrête plus. Donc, l'obéissance à Dieu, elle peut être totale si nous croyons que Dieu est bon, et que s'il nous donne des ordres, il sait pourquoi il les donne. N'allons pas plus loin. Ne cherchons pas à percer les mystères qui ne nous regardent pas. À une époque, quand j'ai commencé de pasteur, je voulais apprendre à chasser les démons. Normal. Jésus a dit, vous chasserez les démons en mon nom. Il fallait que j'apprenne. Donc, j'ai regardé en France, celui qui était le mieux placé, à l'époque c'était François Didier Laurent, je l'ai fait venir, bon, on m'a prévenu, on a dit, attention, il n'est pas clair partout. Bon. Ok, mais c'est pas grave, on a mis des limites, on lui a expliqué qu'il y a des choses publiquement on n'accepte pas, donc il s'est bien tenu avec. Et j'ai appris, j'ai vu des choses incroyables se produire dans des auditoires comme ici, délivrance de démons. Mais bon, il y a quelque chose qui ne me plaisait pas chez cet homme. Il me dit en aparté, après les réunions, mais tu sais, moi j'ai un peu de technique, je place des anges aux portes et tout ça. Alors je dis, tiens, c'est biblique ça, placer des anges. Ah oui, je place l'ange et tout ça. Bon, je passe, mais cet homme a malheureusement terminé de manière tragique. C'était l'homme qu'on demandait à toutes les conventions pour les ateliers, démonisation, etc. Cet homme s'est bagarré avec son fils, qui était charmant, c'était un ami à mes enfants, Samuel et Olivier le connaissent bien. Il s'est bagarré, il n'y a plus parlé, il a divorcé, il est mort là il y a quelques, je crois, un an, tout seul, d'une maladie horrible, et personne n'est venu le voir parce qu'il s'est fâché avec tout le monde. Enfin, et il était chrétien, c'est un homme de Dieu. Donc attention, tout ce qui touche aux anges, aux choses, etc., ne touchez pas à ça. Ne touchez pas à ça. Tu ne mangeras pas de ce fruit parce qu'il est corrompu. Ce sont des anges corrompus et vous entraînent dans la corruption. Et l'un des points, c'est qu'il veut nous faire vaciller dans notre foi. Parce que Dieu est bon. Et c'est bien de chanter, les gens de la louange, Dieu est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Parce que ça, c'est la vérité. Amen. Dieu est bon. Je sais qu'à Kingdom Faith, Colin, hein, c'est un des messages. Dieu est bon. Et sa bonté durera toujours, etc. Et rappelez-vous, David qui chante ces choses-là. Et dites-vous ça, et mettez des cassettes de louanges dans votre voiture, partout, etc., que Dieu est bon. C'est ça qui va vous édifier. Moi, vous savez, je vous comprends, je suis certainement pire que vous tous réunis, au niveau du rationalisme, je suis très rationnel et tout. Et quand je me suis converti, je suis tout de suite entré dans une petite église de Pentecôte, donc j'étais ouvert à l'esprit, à tout l'enseignement et tout ça, mais pendant 15 ans, je n'ai pas réussi à voir le parler en langue. Pendant 15 ans, parce que ma raison me l'interdisait. Hein, et je ne voulais pas me laisser aller comme ça, parler en langue, c'est quoi ça, enfin, bon, j'ai bagarré avec ça. Donc je vous comprends, si vous êtes rationnel. Mais à un moment donné, j'en ai eu marre, j'ai dit, alors je suis allé demander à des pasteurs, des hommes de Dieu, prier pour moi, enfin bon, j'ai tout fait, quoi. Et c'est simplement quand j'ai décidé un jour, dire, je mets les cassettes de louange de ma voiture, et pendant toute la semaine, le matin, le soir, quand j'ai au travail, cassettes de louange. Et le vendredi soir, piou, parler en langue, il est parti tout seul. Tout seul, la voiture. Parce que quand on rentre dans la louange, quand on rentre dans cette adoration de Dieu, en fait, on est avec lui dans sa présence, et l'amour de Dieu nous amène à l'adorer. C'est-à-dire, comme une épouse, hein, quand une femme qui aime un garçon, cet amour vient où en fait ça vous dépasse. Hein. C'est ça le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui vous dépasse, qui est une extase, quoi. Hein. Et c'est avec Dieu, ça doit être pareil. Nous devons entrer dans cette dimension de l'amour envers Dieu, et au travers de la louange, c'est un outil puissant pour rentrer dans la louange et pour rentrer dans la dimension spirituelle. Lucifer, Satan, qui se passe pour Lucifer, hein, l'ange porteur de lumière, eh bien, il veut nous apporter la connaissance de l'arbre du bien et du mal. Nous n'avons pas besoin de connaître le mal. il y a déjà assez de mal comme ça. Hello ? Mais le problème, c'est que lui déguise le mal en bien. C'est ça, sa grande capacité. Il déguise le mal en bien. Et tous les films actuellement, la plupart des films qui sont construits dans cet objectif de présenter le mal comme un bien. Michel, il y a quelques années, il a entendu beaucoup de femmes qui regardaient Desperate Housewives. Elle a dit, j'en ai marre, il faut que je regarde ça. Hein, parce qu'elle ne veut pas parler de choses qu'elle ne connaît pas. Donc elle a passé les cassettes. Elle a dit, c'est l'horreur. C'est l'horreur. La présentation de la femme, de l'objectif de la femme, c'est complètement dévoyé de l'objectif que Dieu a pour la femme. Vous voyez. Mais c'est tellement bien présenté. Hein. Et quand moi je suis allé à Los Angeles, on était dans le circuit, je ne sais plus comment ça s'appelle, le producteur de film, qui montre, enfin, on fait le circuit, et ils nous ont dit, voilà, c'est là que on fait le montage d'Desperate Housewives. C'est des villas qui sont construites dans le désert, quoi, il n'y a rien. Et puis vous avez l'impression que c'est tout un village et tout ça, tout est factice, les raisins, tout ça, c'est que du plastique, du machin, tout. Vous voyez, c'est. Mais vous voyez, le film, enfin, tout ce qui est utilisé, c'est tellement vrai que vous avez l'impression que vous êtes dans la vie réelle. En fait, c'est que du cinéma. Mais tout ce que fait Satan, c'est que du cinéma. Que du cinéma. Mais derrière, il y a une intention, c'est de nous empêcher à obéir à l'ordre de Dieu, à obéir à sa parole, à obéir à ses ordres, à obéir à ce qu'il nous commande, parce que ce qu'il nous commande est bon. Amen. Il est écrit un passage dans la Bible, hein, je suis beaucoup en retard sur ce que je vais vous dire, mais dans 1 Samuel 15, verset 23, rappelez-vous, lorsque Saül commence à se jouer à ce petit jeu-là, parce que Saül, son cœur n'était pas complètement à Dieu. David, il a un cœur complet pour Dieu. Et quand le prophète lui dit, tu as péché, et qu'il réalise qu'il a péché, il prend le sac et la cendre et il se repent. Saül, quand on lui dit, tu as péché, il dit, mais non. J'ai fait ça parce que le peuple, vous voyez, il avait tout de suite une excuse. Et tous les chrétiens qui sont dans le déni, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils veulent le cacher. Il veut dire, mais non, j'ai fait ça parce que je ne pouvais pas faire autrement, ceci ou cela. Attention. Attention. Là, vous êtes sur une pente savonneuse. Saül était sur une pente savonneuse. Samuel a dit, mais pourquoi as-tu fait le sacrifice? Ah, parce que tu n'es pas venu à l'heure. Ah bah oui, mais il était testé. C'était l'obéissance totale. Il n'avait pas le droit de faire le sacrifice. C'était à Samuel de faire le sacrifice. Donc Dieu nous teste. Il faut être prêt pour le test. Si nous aimons Dieu, nous lui obéissons jusqu'au bout. Dites tous jusqu'au bout. Très souvent, c'est juste avant l'échéance, le gong, que Dieu intervient. Il le fait tout simplement pour nous tester, pour nous aider à grandir, pour lui faire confiance jusqu'au bout. Alors ? Jusqu'au bout. C'est tout. S'il ne fait pas confiance jusqu'au bout, pas grave, notre salut n'est pas en cause, on est quand même sauvés en tant que chrétien. Mais nous perdons tout un tas de choses dans notre vie chrétienne. Nous perdons la capacité de bien entendre sa voix, parce que nous sommes déjà en train d'écouter l'ennemi nous parler. Voyez. Et Saül, il n'entendait plus la voix de Dieu, donc il a fait venir David, déjà parce qu'il avait des démons en lui, qui commençaient à agir. Donc il fallait les calmer. Donc David, quand il venait jouer des louanges, eh bien ce démon se calmait. Mais quand David partait, paf, il revenait et puis il voulait tuer David. Enfin, vous voyez tout ce combat. Et jusqu'à la fin, comme Dieu ne lui parlait plus, parce que Dieu a dit, si tu ne veux pas de moi, tu ne veux pas suivre mes ordres, je te laisse. Il est allé voir une voyante, celle qui n'était pas morte, il est allé la voir. Et c'est là que Samuel est apparu. Et là, il a eu peur, c'était trop tard. Dieu l'avait rejeté. Il y a des conséquences à ne pas obéir qui peuvent être très graves. Donc, spirituellement, faisons attention et faisons confiance à Dieu qui est tout puissant. Amen. Et dans ce passage, dans Samuel, il y a une révélation très profonde, c'est important. C'est que l'obéissance équivaut à quoi ? dans ces passages. L'obéissance ou la rébellion, hein, c'est obéissance, rébellion, c'est le même mot. Pardon ? Au mieux que les sacrifices, non, dans ce passage-là, c'est un autre passage, dans ce passage-là, il est marqué que l'obéissance est équivalent à la divination. C'est quoi la divination ? Désobéissance. Oh, je suis désolé. Désolé. La désobéissance, oui. Les désobéissances est équivalent à la divination. C'est quoi la divination ? Sorcellerie, c'est autre chose encore. Enfin, oui, ça, c'est de la magie. Hein. La magie, c'est le mot qui couvre tout ça. Sorcellerie, alchimie, etc. Divination. Pardon ? C'est quelque chose qui existe dans tous les pays. Hein. Dans tous les peuples, tous les pays, machin, et la divination. C'est la base du fonctionnement du monde. Les augures, par exemple. Vous connaissez les augures ? Au temps des Romains ? C'est comme ça que les druides, par exemple, faisaient des divinations. C'était le principal... chose qu'ils faisaient, les druides, les grands savants. Hein, on pouvait être druide qu'à partir de 30 ans. Hein, ils avaient une école beaucoup plus que maintenant de formation pour savoir un tas de choses. Divination, ça s'appelle les mancies. Enfin, chiromancie, practomancie. Enfin, mancie, c'est l'origine. Divination. Et vous savez combien il y a de techniques de divination ? J'étais affolé quand j'ai vu le nombre de techniques. Bon, je cite une ou deux chiromancies parce que je ne les connais pas. Et combien il y en a de divination ? De science de divination, 136. 136 ? Ah, il n'y en a pas trois, il y en a 136. Donc, il y a le panel, là. Et la divination, c'est simplement... Élodie est un peu angoissée pour son avenir, pour des trucs qu'il a demandé et tout ça. Et vous, elle a fait confiance totale au Seigneur. Et le Seigneur, il répond dans cette simplicité de cœur. Mais elle n'aurait pas agi. Elle aurait agi comme dans le monde. Et l'angoisse, vous voyez, il y a souvent des gens devant le bac, tout ça, ou même des mamans qui sont angoissées pour leur fils. Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont voir un devin. Comme il y en a tellement, ils regardent dans le marc de café, n'importe quoi, etc. Enfin, ils vous disent l'avenir, si vous aurez le bac ou ça. Bon. Ah ben, Élodie, va voir. Tiens, montre-moi les lignes de ta main. Ah ben voilà, c'est ça qui va arriver, tout ça, ou l'astrologie, etc. Et à partir de là, eh bien, vous voulez chercher l'avenir. Et parfois, ça se passe aussi avec les prophètes chrétiens. On touche à la divination. Au lieu d'aller vers Dieu, John Wimber a arrêté les prophètes chez lui, dans son église, parce qu'il a dit que les gens faisaient de la queue. Tous les cultes le dimanche, pour demander dans la semaine s'ils auront telle voiture, tel appartement, machin, etc. Vous allez voir le prophète. Hein. Attention, la divination, c'est de savoir l'avenir, parce qu'on est angoissé par rapport à ce qui va arriver. Méfions-nous de tout ce qui touche à ça. Et s'en est rempli autour d'eux. À Paris, il y a plus de devins que de médecins, de docteurs. Hein, plus. Vous voyez, il y a de quoi consulter. Nous sommes entourés d'un monde spirituel et de gens qui pratiquent avec le monde spirituel. Et nous-mêmes, nous devons nous attacher à Dieu seul et obéir à sa parole, à sa voix. Et Dieu le fait par amour. Il le fait pour nous avertir. Il ne le fait pas pour nous juger, pour nous faire du mal. Il veut simplement notre bien, notre bonheur. Il veut que nous soyons épanouis. Il veut que nous entendions sa voix, que nous puissions répondre à son amour. Et donc, c'est pour ça que Dieu nous demande cette obéissance totale. Et la désobéissance est équivalente à la divination. C'est pour ça que Saül, dans sa désobéissance, eh bien, il était parti aller voir une voyante pour lui demander s'il allait gagner la bataille ou pas, parce que Dieu ne lui parlait plus. Et il n'avait plus que cette issue-là. Je vais essayer, dans les semaines qui viennent, vous expliquer, à partir de ce principe-là, le ministère féminin. Alors vous dites, c'est quoi ça ? Ministère féminin. Oui, parce que dans l'Église, il y a beaucoup, beaucoup de malentendus sur cette question de ministère féminin. Dans un sens, dans un autre, etc. Et je voudrais vous aider à vous appuyer sur la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu pense du ministère féminin. Et pourquoi il le pense. Pourquoi il le fait, les choses. De manière à ce que votre foi soit fondée, parce que nous sommes ouverts au ministère féminin, hein, ceux qui sont nouveaux. Mais je ne voudrais pas, comme certains théologiens que j'ai entendus, pas des moindres, qui disent, bah, comme on ne comprend pas trop certains passages, bah, on fait semblant de ne pas les connaître. Et puis, bon. Moi, je ne voudrais pas faire ça. Je voudrais vous appuyer sur la parole. Parce qu'il y en a qui s'appuient sur la parole pour interdire le ministère féminin. Mais je voudrais vous montrer que la parole ne dit pas ça. C'est les traductions qui disent ça, mais bon, je ne vais pas effleurer le sujet. Mais je voudrais qu'on puisse être appuyé sur la parole. Parce que la parole de Dieu est fiable. Amen. À condition qu'on l'interprète correctement dans son contexte. Et que nous soyons des Béréens. Amen. Que nous cherchions dans la parole, mais que nous puissions nous appuyer dessus pour faire les choses. Et que nous puissions vraiment être dans l'obéissance. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, te demandons que ce désir d'obéissance soit chevillé dans notre être le plus profond, chacun de nous, parce que nous croyons profondément que tu es bon. Et que tout ce que l'ennemi nous propose n'est qu'un subterfuge, n'est qu'un succès d'année, quelque chose qui remplace une réalité, mais qui est fausse. Seigneur, aide-nous dans ces semaines qui viennent à bien approfondir ta parole et à nous appuyer sur le rocher de ta parole, Seigneur, tel que toi tu l'enseignais. Seigneur, comme souvent tu disais aux pharisiens, aux scribes, vous dites que, mais moi je vous dis que. Seigneur, tu donnes sens à cette parole et nous voulons que ce sens soit celui que toi tu lui as donné au départ. Te prions au nom de Jésus.